Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, il est 6h, temps universel. Merci de débuter la semaine en écoutant la voix de l'Amérique. En direct du Studio 13, aujourd'hui, Nicolas Pinault et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une ce matin, lutte contre le virus Ebola, la visite de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power, en Guinée.
Semaine cruciale au Burkina Faso en vue de la modification de la Constitution.
Le Rubicon allait être franchi. Nous souhaitons que cela puisse interpeller les uns et les autres. Parce que ce n'est pas fini. L'eau n'est pas versée entièrement.
En Tunisie, El Narda en passe d'être battu aux législatives. Dilma Rousseff réélu au Brésil.
Sans oublier les sports en fin d'émission et la déception à Kinshasa après le match nul de l'AS Vita Club en finale aller de la Ligue des Champions.
On n'a pas joué le match comme on joue d'habitude. J'ai pas reconnu vraiment mon équipe. On a joué avec une équipe qui n'avait pas un vrai bloc comme on fait d'habitude.
Mais avant cela, le journal, vous écoutez la voix de l'Amérique. Bonjour à tous.
Samantha Power en tournée en Afrique de l'Ouest, la représentante américaine aux Nations Unies, a débuté hier à Conakry une visite des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le virus Ebola. Un déplacement qui intervient alors que les États-Unis ont pour la première fois placé d'office une personne en quarantaine dans le New Jersey. Samantha Power est venue démontrer le soutien américain aux pays touchés. À Conakry, les précisions de Zakaria Camara.
Cette visite a été de quelques heures, mais le temps nécessaire pour rencontrer le président Alpha Condé, avec qui l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies a abordé l'aide internationale et celle américaine en particulier à la lutte contre Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut beaucoup d'argent pour vaincre Ebola et Samantha Power de constater à Conakry l'urgence de cet apport financier pour éliminer ce qui se dessine comme une menace pour la paix dans le monde. La diplomate américaine s'est ensuite rendue à la grande mosquée de Conakry où elle s'est entretenue avec les leaders religieux autour des efforts déployés dans la riposte contre le virus Ebola. Les États-Unis sont impliqués dans la lutte contre Ebola à travers un appui matériel et logistique. Plus de 70 experts du Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC, sont présents en Afrique de l'Ouest. Samantha Power a quitté Conakry le même jour pour la Sierra Leone et le Libéria. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Et c'est dans ce contexte que le Mali est venu s'ajouter à la liste des pays touchés par l'épidémie depuis le décès d'une fillette de 2 ans à Kaye. Plus de 50 personnes ont été placées en quarantaine, dont une dizaine à Bamako. Écoutons les détails d'Issa Batili de la radio rurale de Kaye, notre partenaire.
Les mesures sanitaires prises par les autorités au niveau de Kaye sont entre autres la limitation des salutations, c'est-à-dire se donner la main, les accolades, tout cela, ensuite se laver les mains au savon, éviter surtout les regroupements et le numéro vert qui est mis à disposition pour appeler les services de santé en toute urgence et pour pouvoir pallier d'autres cas suspects au cas où il y en aura. Et pour que la prise en charge puisse se faire très rapidement. Ensuite, également, il faut dire qu'il y a un opérateur économique qui a remis du matériel désinfectant aux transporteurs parce que, vu que la fillette décédée était transportée d'un bus de Bamako à Kaye, tout cela sont des mesures pour parer à toute éventualité.
Au Nigeria, malgré le cessez-le-feu annoncé, un nouvel enlèvement a été rapporté hier et des combats ont encore opposé Boko Haram à l'armée. Issiakaba.
Alhaji Setima Maina, chef du village de Mafa, a annoncé l'enlèvement de 30 adolescents par les islamistes. Mafa est à une cinquantaine de kilomètres de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Déjà, la semaine dernière, environ 60 femmes et jeunes filles ont été enlevées à Ouaga et Gwarta, deux localités proches de Chibok où 200 lycéennes ont été kidnappées en avril dernier. Malama Sheikh Mustafa, notre responsable local, ajoute que 17 personnes ont péri ces derniers jours dans l'attaque du village voisin de Ndongo. De son côté, l'armée nigériane assure avoir repris en fin de semaine le contrôle d'Abadam, une localité qui était tombée aux mains des islamistes le 17 octobre. Pourtant, c'est ce même vendredi 17 octobre que le Nigeria a annoncé un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram.
Par ailleurs, 39 combattants de Boko Haram ont été abattus par l'armée camerounaise lors d'incursions en territoire camerounais qui ont fait également 4 morts parmi la population civile. Le ministère camerounais de la Défense affirme que jeudi, des membres de la secte Boko Haram, lourdement armés, ont effectué des incursions à Glaoui, Fotokol, Achmidé et Kolofaté. Ce bilan n'a pas pu être confirmé de sources indépendantes.
Le Burkina Faso se prépare à vivre une semaine sous haute tension. L'Assemblée nationale doit voter pour autoriser un référendum qui devrait ouvrir la voie à une révision constitutionnelle et permettre le maintien de Blaise Compaoré au pouvoir. L'opposition, les syndicats et la société civile comptent descendre dans la rue. Idriss Fall.
Le gouvernement a annoncé hier que les écoles, collèges, lycées et universités seront fermées toute la semaine sur toute l'étendue du territoire. L'Assemblée nationale doit examiner jeudi un projet de loi très controversé visant à réviser l'article 37 de la Constitution afin que le président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, puisse se représenter en 2015. L'opposition a appelé à une journée nationale de protestation mardi pour dénoncer ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel. Plusieurs associations de la société civile ont lancé un ultimatum à M. Compaoré pour qu'il retire son projet sous peine de paralyser le pays. Des syndicats et associations de la société civile ont appelé à une grève générale mercredi. Enfin, l'opposition a demandé à la population de bloquer le Parlement jeudi pour empêcher le vote de ce projet de loi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 6h06, temps universel. Dans le reste du monde, en Tunisie, on s'achemine vers la défaite des islamistes d'Ennahda aux législatives. Nida Tounes, le principal parti laïque, s'est dit confiant dans sa victoire, alors que les premiers résultats partiels devraient être connus ce lundi à Tunis. Notre correspondant Mourad Selem.
Les islamistes d'Ennahda ne sont pas parvenus à préserver leur mainmise sur le Parlement en Tunisie. C'est le parti Nida Tounes qui arrive premier à l'issue du dépouillement de tous les bureaux de vote. Nida Tounes aura entre 80 et 85 sièges, alors que les islamistes d'Ennahda n'auront qu'entre 55 et 60 sièges. Les autres partis se répartissent le restant des sièges. Cette surprise survient en Tunisie, alors que la conjoncture internationale dans le Moyen-Orient et dans la région est en gros imprégnée par les islamistes de Daesh et les complications de la situation en Irak et en Syrie. Ce revers des islamistes risque de créer une nouvelle donne sur la scène politique en Tunisie et dans la région. Mourad Selami, à partir de Tunis, pour La Voix de l'Amérique.
Réélection de Dilma Rousseff à la tête du Brésil pour 4 ans. La présidente a remporté l'élection présidentielle avec 51% des suffrages devant Aécio Neves. À Brasilia, Mme Rousseff a appelé à la paix, à l'union et au dialogue et assuré qu'elle tendrait la main à ses opposants pour changer le pays.
Autre élection en Ukraine où les résultats officiels des législatives sont attendus dans la journée. Une large victoire du camp pro-occidental et nationaliste d'une ampleur sans précédent depuis l'indépendance est annoncée. Cela conforte un fragile processus de paix engagé avec les séparatistes pro-russes dans l'Est, a estimé le président ukrainien Petro Poroshenko.
Plus de 800 personnes ont été tuées dans la ville syrienne de Kobané depuis le début de l'offensive du groupe État islamique il y a 40 jours. C'est un décompte effectué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui ne prend pas en compte les victimes des frappes aériennes. L'ONG affirme que 481 combattants de l'État islamique ont aussi trouvé la mort.
La Grande-Bretagne a mis fin dimanche à sa mission de combat en Afghanistan. Les Britanniques ont rendu aux forces afghanes le contrôle du camp Bastion dans la province du Helmand, dans le sud-ouest du pays. Après 13 ans de guerre, plus de 450 soldats britanniques ont été tués sans parvenir à neutraliser les talibans afghans.
Enfin, en Haïti, le gouvernement a officiellement annoncé le report des élections législatives et municipales qui devaient avoir lieu ce dimanche. Aucune nouvelle date n'a été annoncée. Avec déjà plus de 3 ans de retard, ces élections devaient être organisées pour élire 20 sénateurs et 102 parlementaires.
C'est tout pour ce journal. De retour avec vous, Nicolas Pineau, pour Le Monde aujourd'hui. On débute la partie magazine de cette émission et première escale, le Mali. De retour d'Alger où se déroule la troisième phase des pourparlers avec les groupes rebelles, la délégation malienne a tenu un point de presse pour faire le point. Kassim Traoré était sur place pour La Voix de l'Amérique.
La grande satisfaction des Maliens est le fait que nulle part dans le document de synthèse, le mot Azawad n'est mentionné. Les principes fondamentaux aussi ont été respectés selon Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, chef de la délégation malienne au pourparlers d'Alger.
C'est-à-dire que le respect de l'unité nationale, de la souveraineté du pays, de l'intégrité territoriale et de la forme laïque et républicaine de la République. En clair, le document qui nous est proposé ne parle pas de fédéralisme, ne parle pas d'autonomie. En soi, pour nous, c'est une donnée importante, laquelle aussi nous voulons saluer.
Sur les questions militaires, notamment le déploiement de l'armée malienne dans ses positions initiales, des éclaircissements ont été donnés par le ministre Amadou Konaté.
Le déploiement commence immédiatement après la signature de l'accord et il devrait être terminé un an après. Nulle part, le document ne contredit le principe de la défense comme étant un acte de souveraineté. Et nulle part, il n'y a une ambiguïté sur le fait que la défense nationale est assurée par une armée nationale.
Parlant de la situation de Kidal, avec le récent meeting organisé par le secrétaire général du HUA, le ministre de la Réconciliation nationale dira que le processus de dialogue amorcé à Alger est irréversible. Zabi Ould Sidi Mohamed.
Je lance un appel, non seulement au mouvement armé, de ne pas rentrer dans des spirales de provocation. Nous sommes dans un processus qui est irréversible. C'est un processus de paix qui est accepté par toutes les parties.
Le document de synthèse proposé par la médiation englobe plusieurs domaines. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères.
Une gouvernance qui permet de prendre en charge les aspirations profondes des Maliennes et des Maliens, mais en particulier les aspirations des communautés du Nord pour asseoir une prospérité partagée, une vision partagée de notre pays. Il y aura certainement des organes élus au niveau local qui prendront en charge les questions liées à l'aménagement du territoire, liées au développement économique et social.
Les pourparlers ont été suspendus afin que les deux parties fassent des améliorations dans le document de synthèse proposé par la médiation. Selon le ministre Abdoulaye Diop, ce document amélioré sera l'ossature d'un accord définitif au Mali. Un document qui est déjà accepté par la communauté internationale, laquelle souhaite une accélération du processus de pourparlers d'Alger. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, alors que la révision constitutionnelle semble inévitable, parlons de ce livre au titre plus que d'actualité « Faut-il désespérer de l'Afrique ?» de Bourema Sigué, le directeur de publication du quotidien Le Pays. En débat, la mal-gouvernance qui règne sur le continent. Décryptage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou pour La Voix de l'Amérique.
Faut-il désespérer de l'Afrique est un livre qui présente en sa page de garde une carte de l'Afrique dans laquelle des photos qui témoignent à l'envi que le continent va mal. L'auteur Bourema Jérémy Sigué.
Je préfère un titre interpellatif au lieu d'un titre affirmatif. Moi, je ne savais pas qu'en faisant ce livre-là, ce qui se produit actuellement sur le terrain du Burkina Faso et même sur le terrain des autres pays africains, que les choses iraient justement dans ce sens-là, dans le sens justement de l'ébullition que nous constatons actuellement. C'est malheureux, je suis le premier à en être triste, mais je dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand vous semez le vent, vous récoltez la tempête.
Cette tempête menaçante aurait, selon Dramane Konaté, le président de la Sagesse, société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs, un effet miroir.
Si vous prenez l'Afrique tout entière, c'est comme des situations qui évoluent en miroir, comme nous le disons dans le jargon littéraire. C'est-à-dire que la situation au Burkina, la situation peut-être au Togo, en Afrique centrale, on voit que c'est pareil. Il ne faut pas tout à fait désespérer parce qu'il y a des solutions qui sont proposées. À qui de droit ? À la jeunesse, aux intellectuels, à la classe politique, à la société civile, à la femme. Donc chacun prend ce qui lui revient comme part de responsabilité et je crois que c'est ensemble que nous pouvons bâtir une société nouvelle.
Les reflets de ce miroir semblent avoir un effet plus aveuglant sur le Burkina avec la modification de la Constitution. Voici la lecture qu'en fait Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou, passé à l'opposition.
Quand il écrivait, il ne savait pas que des décisions qui ont été prises il y a 3 jours allaient être prises, que le Rubicon allait être franchi. On s'est dit qu'il a été un visionnaire et nous souhaitons que cela puisse interpeller les uns et les autres. Parce que ce n'est pas fini, l'eau n'est pas versée entièrement. Et même s'il y a des situations qui font qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de quoi être déçu et de s'interroger sur l'avenir de notre pays, le Burkina Faso.
Zoumana Ouédougou, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Les djihadistes de l'État islamique ont ces derniers mois décimé les forces irakiennes et conquis presque toute la province d'Anbar. Ils tentent évidemment de gagner à présent la capitale irakienne. Le point avec Lionel Gaïma.
Le militaire américain ne pense pas que Bagdad fait face à une menace imminente. Jusqu'ici, la capitale n'est pas dans la ligne de mire des djihadistes. Mais Anbar pourrait servir de tremplin aux militants pour des assauts sur la périphérie de la capitale. Des miliciens chiites se sont rués sur l'une des localités attaquées, Abu Ghraib, pour tenter de barrer la route aux djihadistes. Ils sont déterminés, tout comme l'armée du gouvernement, à empêcher ces derniers d'entrer dans les faubourgs essentiellement sunnites qui ne sont qu'à 25 km de l'aéroport international de Bagdad. L'objectif des islamistes est de contrôler les points d'accès et de sortie de la capitale, mais selon l'analyste Eric Bremen de la RAND Corporation, il leur sera impossible pour le moment de prendre Bagdad, étant donné son importante population chiite.
What they are capable of doing is being able to infiltrate into certain areas.
Ce qu'ils peuvent faire, c'est s'infiltrer dans certains secteurs, peut-être gagner la sympathie d'une certaine partie de la population sunnite dans l'Ouest, et intensifier la violence à Bagdad pour y rendre la situation intenable. En fait, la tension n'a cessé de monter à Bagdad, qui a été ravagée par une vague d'attentats à la voiture piégée dans les quartiers chiites. Pour Brennan, l'objectif, c'est d'amener les Irakiens à prendre confiance dans leur gouvernement en les démoralisant. Jessica Lewis de l'Institute for Study of War doute que le groupe puisse contrôler la ville. Je ne crois pas sincèrement qu'ils sentent la nécessité de la contrôler tout de suite parce qu'ils semblent arrêter les objectifs qui sont incroyablement concrets et conformes à leurs moyens. Quelques 60 000 soldats irakiens sont déployés aux portes de Bagdad, y compris à l'aéroport international. Selon Brennan, l'armée gouvernementale n'est pas actuellement en mesure de lancer une contre-offensive majeure contre les islamistes, la moitié des soldats n'étant pas prêts pour le combat. Mais alors qu'on développe des capacités militaires et avec les efforts de la coalition et les moyens aériens que nous amenons, il sera possible demain, peut-être avec l'intégration des forces spéciales américaines, d'aider les Irakiens à avancer au front. Le président Barack Obama exclut toute présence de troupes américaines au sol, mais on a le sentiment de plus en plus à Washington que la défaite de l'État islamique devra nécessairement impliquer des troupes terrestres étrangères.
On commence cette page des sports par du football et la déception à Kinshasa pour la demi-finale aller de la Ligue africaine des champions. Au stade Tata Raphaël, le Vita Club a dû concéder le match nul de partout face à l'entente sportive de Sétif. Menés 2 fois au score, les Dauphins Noirs ont été crispés par l'enjeu de cette rencontre, selon leur entraîneur Florent Ibengue.
On n'a pas joué le match comme on joue d'habitude. Je n'ai pas reconnu vraiment mon équipe. On a joué avec une équipe qui n'avait pas un vrai bloc comme on fait d'habitude. Notre bloc était disloqué. On a permis justement à cette équipe de s'engouffrer à qui mieux dans les espaces qu'on a laissés. À partir du moment où on n'a pas un bloc, on ne peut pas jouer ni défensivement ni offensivement, c'est difficile. Avec toutes ces lacunes, on a quand même le mérite de faire un match nul et je trouve que le résultat est assez flatteur. Le Vita Club a manqué la fraîcheur physique, mais je pense que c'était beaucoup plus mental que physique. Je crois que c'est peut-être le poids du match a un petit peu pesé parce que d'habitude on joue un match normal et là on a joué un match pour tout le pays. Peut-être le poids de cette responsabilité nous a peut-être un peu inhibés au lieu de nous pousser. Je crois que l'équipe est jeune et c'est pas toujours évident. On a quand même réussi à ne pas perdre. Il reste encore une manche. On n'est pas encore tout à fait mort donc comme on est des hommes, on ira en Algérie pour garder l'objectif qu'on s'était fixé avant ces 2 rencontres, c'est-à-dire gagner quand même.
Florent Ibengué, entraîneur de l'AS Vita Club. Côté algérien, en revanche, on savoure ce bon résultat, comme l'explique l'entraîneur Kéredine Madoui.
C'est vrai, ils étaient menés deux fois de suite, alors c'était très dur pour eux déjà pour revenir dans le score. Et ils sont tombés un petit peu dans la précipitation quelquefois. Et c'est vrai, c'est une bonne équipe, ils ont de quelques joueurs quand même qui ont pu faire la différence dans ce match-là, surtout sur le deuxième but. C'est un club qu'on respecte beaucoup. On savait qu'on pouvait marquer le troisième, et même parce que le ratage qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment flagrant. Il manquait, je crois, la dernière passe, la dernière touche, ou des fois mettre le ballon dedans. On a eu beaucoup d'occasions, on ne les a pas concrétisées, mais je pense que c'est de bon augure. Et franchement, aujourd'hui, sur le plan offensif, mon équipe a osé, a pris du risque, et ce qui a fait qu'on pouvait sortir victorieux quand même de ce match-là.
Kéredine Madoui, l'entraîneur de Sétif, des réactions recueillies par notre partenaire à Kinshasa, Top Congo. Match retour dans une semaine à Blida, en Algérie. Football féminin à présent, les Nigérianes reprennent le trophée continental qui leur avait échappé en 2012 à Malabo, en Guinée équatoriale. Les Super Falcons ont remporté en Namibie la finale de la CAN. 2-0, c'était samedi face au Cameroun. La Côte d'Ivoire prend la troisième place de ce tournoi et c'est important puisque ces trois équipes représenteront le continent africain lors de la Coupe du Monde 2015. Ce sera au Canada. Toujours chez les dames, les États-Unis ont remporté la Coupe de la CONCACAF en battant le Costa Rica 6-0 en finale. Et puis le foot sud-africain est en deuil. Le capitaine des Bafana Bafana, Senzo Meyiwa, a trouvé la mort hier dans une fusillade à son domicile dans un township à 20 km au sud de Johannesburg. Enfin tennis, Serena Williams sur le toit du monde. L'Américaine a remporté hier son troisième Masters d'affilée en battant en finale à Singapour la Roumaine Simona Halep, le score 6-3-6-0. À 33 ans, la numéro 1 mondiale décroche son cinquième Masters au total et elle est la première joueuse depuis Monica Seles en 90, 91 et 92 à s'imposer trois fois consécutivement dans ce tournoi. Place à présent à la musique, comme tous les matins dans notre émission, nous accueillons Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nico. Iggy Azalea furieuse contre un paparazzi, la rappeuse dérape. Difficile de passer incognito et de préserver son intimité quand on est une star. Certains arrivent à garder leur sang-froid devant les paparazzi qui les traquent sans leur accorder le moindre répit. D'autres, en revanche, vivent plus difficile les affres de la célébrité. Iggy Azalea en fait partie. On l'écoute ce matin dans Black Widow.
Roger, alors qu'elle commence seulement à se faire un nom, Iggy Azalea subit déjà les affres de la célébrité. Connue pour ses tubes Fancy et Black Widow, la rappeuse australienne entend bien protéger sa vie privée.
Oui Nico, mais plus pour très longtemps. Suivi dans un supermarché de Los Angeles, l'artiste a été photographiée la semaine dernière par un paparazzi pendant qu'elle déambulait dans les rayons. D'après le site peoplestarfan.com, le paparazzi quittait le magasin lorsque la star l'a rattrapé devant l'entrée pour lui faire part de son mécontentement. Le photographe en question a rappelé qu'un supermarché est un lieu public et qu'il était dans son bon droit. Agacé, Iggy Azalea lui aurait craché dessus avant de se réfugier dans le magasin auprès des vigiles. C'est dur d'être une star, Nico.
Iggy Azalea dans Black Widow. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Nico. Bonne journée à vous et à tous nos amis sur Facebook.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs 20h temps universel dans le RM Show. Love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you lean for it, till they have a kiss, gonna check on your mind and it's nothing but me. On it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quit. Cause
consider a fatal attraction, so I take it all or I don't want it. You used to be thirsty for me, right? But now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. So baby, now rest in peace. So
Anne Albertson nous revient tout de suite pour le rappel des grands titres de l'actualité ce matin.
Samantha Power en tournée en Afrique de l'Ouest, la représentante américaine aux Nations Unies, a débuté hier à Conakry une visite des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le virus Ebola. Madame Power est venue démontrer le soutien américain à ces pays. Elle poursuit sa tournée au Libéria et en Sierra Leone. C'est dans ce contexte que le Mali est venu s'ajouter à la liste des pays touchés par l'épidémie depuis le décès d'une fillette de 2 ans à Kaye. Plus de 50 personnes ont été mises en quarantaine, dont une dizaine à Bamako. Au Nigeria, malgré le cessez-le-feu annoncé, un nouvel enlèvement a été rapporté hier et des combats ont encore opposé Boko Haram à l'armée. En Tunisie, on s'achemine vers la défaite des islamistes d'Ennahda aux législatives. Nida Tounes, le principal parti laïque, s'est dit confiant dans sa victoire, alors que les premiers résultats partiels devraient être connus ce lundi. Et réélection de Dilma Rousseff à la tête du Brésil pour 4 ans. La présidente a remporté l'élection présidentielle avec 51% des suffrages devant le président Aécio Neves.
Et c'est ainsi que s'achève notre émission Le Monde aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Nous allons saluer Hortense Semboy à Ouagadougou et Welcome Café à Bangui. Comme eux, retrouvez-nous sur notre page Facebook, La Voix de l'Amérique. Anne Albertson et Nicolas Pineau vous ont accompagné ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.